à tous et bienvenue. L'émission Compte-Gouttes se confine, mais se transforme. Je suis Caroline et je vous raconte une ou deux histoires tous les jours à 14h30 sur Radio Campus Grenoble 90.8. Profitez-en pour endormir vos enfants, augmenter le sonotone de belle-maman, profitez-en pour rêver et voyager. Il n'y a pas d'angoisse à avoir, on ne sera jamais à court d'histoire, car les contes, c'est comme l'eau de la mer. Tu peux en prendre autant que tu voudras, jamais le niveau ne baissera. Bonjour les petites et grandes oreilles. Aujourd'hui, soyez sympas, essayez de faire la sieste. Non, vraiment, tout le monde sera content. Vos parents, vos grands-parents, vos voisins aussi, vraiment. Alors, pour vous aider à dormir, j'ai choisi aujourd'hui deux histoires qui parlent de la nuit et du rêve. Allez, soyez sympas, faites un effort, hein. C'est le confinement pour tout le monde. Allez les enfants, on s'accroche, on essaye de dormir. Je vais prendre ma voix la plus soporifique, et puis j'espère que vous allez dormir, allez, une ou deux heures, hein. On commence avec un premier conte qui s'appelle « Le rêve vendu ». Yukichi et Musuke étaient d'excellents amis. Yukichi était un garçon joyeux, presque frivole. Musuke, par contre, était sérieux et fort prudent. Tout différents qu'ils étaient, ils s'aimaient tant que si l'un devait entreprendre un voyage d'affaires, en effet, ils étaient tous les deux marchands, il attendait toujours que l'autre puisse se joindre à lui. Ainsi, une fois de plus, ils faisaient route ensemble. La journée avait été chaude et ils furent heureux d'arriver au bord d'une forêt et de pouvoir s'étendre à l'ombre d'un pin. Au bout d'un moment, Yukichi était profondément endormi. Musuke regardait le dormeur et, en soupirant, il se disait « Il dort tranquillement ici, dans la nature, comme s'il était dans sa maison. » Moi, vraiment, je ne le pourrais pas. Bon, moi, j'aurais peur de me faire voler. Et pourtant, un petit somme serait le bienvenu. Mais malheureusement, moi, je ne peux pas m'endormir dehors. Pendant que Musuke faisait ses réflexions, il vit tout d'un coup une guêpe sortir de la narine gauche de son ami. Il le regarda avec étonnement. Elle s'envola vers un haut pin solitaire campé sur un rocher, tourna trois fois autour de l'arbre, puis revient vers Yukichi et disparut dans sa narine droite. Musuke n'avait jamais vu une chose aussi étrange. À cet instant, Yukichi s'éveilla, s'assit en riant et dit « Musuke, je viens de faire un rêve merveilleux et il faut que je te le raconte. Figure-toi qu'il y avait un haut pin campé sur un rocher élevé, oui, exactement comme celui que tu vois là-bas. Une guêpe tournait autour du tronc en bourdonnant « Tu dois creuser à cet endroit, tu dois creuser à cet endroit !» Et effectivement, je me suis mis à creuser et j'ai trouvé un grand pot plein de pièces d'or. De ma vie, je n'avais vu tant d'argent, sauf dans mes rêves. « Vraiment ? C'est un rêve étrange ?» répondit Musuke. « À ta place, moi, j'irai creuser autour de ce pin là-haut. »« Mais qu'est-ce qui te prend ? Je vais pas aller me fatiguer par une telle chaleur simplement à cause d'un rêve stupide. Continuons plutôt notre route pour arriver à temps en ville. » Mais Musuke ne voulait rien entendre. Un tel rêve a sûrement un sens. Si tu ne veux pas creuser, moi, je veux bien essayer. Sais-tu ce que je te propose? Vends-moi ton rêve. Yukichi éclata de rire. Voilà une bonne affaire pour moi qui n'ai jamais vendu de rêve. Que m'offres-tu? Tu as dit qu'il y avait là un grand tas de pièces d'or? Je ne sais pas vraiment. Je suis ton ami et je ne veux pas te léser. Dis-moi, toi-même, à combien tu estimes ton rêve? Après une courte discussion, ils se mirent enfin d'accord sur la somme, et Musuke acheta le rêve pour 300 grosses pièces d'argent. « Jamais je n'ai fait une telle affaire. Tant d'argent pour un simple rêve !» dit Yukichi en riant. « Mais maintenant, dépêchons-nous, sans quoi nous serons en retard pour le marché. » Les amis avaient parlé à haute voix, car ils se croyaient seuls. Ils ne pouvaient pas deviner que l'avare Katechimon avait surpris la conversation. Lui aussi faisait route vers la ville et s'était reposé à la lisière de la forêt. Il s'était endormi, mais les voix des deux marchands l'avaient réveillé. Maintenant, il eut un rire mauvais. « Que voilà d'honnêtes gens, acheter un rêve. Heureusement qu'ils ont parlé fort. Maintenant, je sais où est enterré le trésor et je l'aurai pour rien. » Katechimon renonça à aller au marché et grimpa rapidement sur le rocher. Puis il creusa entre les racines du pin jusqu'à ce qu'il trouvât quelque chose de dur. Il continua à creuser avec précaution et finit par sortir de terre un gros pot ventru rempli de pièces d'or. Katechimon brisa le pot et mit les pièces d'or dans le grand sac qui ne le quittait jamais. Arrivé à la ville, il acheta pour tout cet argent une auberge et il devint un homme riche. Mais cet or ne lui porta pas bonheur. Au bout de quelque temps, il perdit non seulement l'or qu'il avait trouvé, mais tout ce qu'il avait possédé auparavant et bientôt, il fut mendiant. Lorsque, à la ville, Musuke eut terminé ses affaires, il quitta Yokuchi et s'en retourna à l'endroit où il avait acheté le rêve. Quelle ne fut pas sa déception lorsqu'il vit que les racines du pin étaient dénudées et que les tessons du pot gisaient tout autour. Quelqu'un a pris les devants et a déterré le trésor, se dit-il avec tristesse. Et il regarda les tessons. Tout à coup, il tomba en arrêt, car sur l'un de ceux-ci, il avait découvert une inscription. Il la déchiffra à haute voix, « Le premier des sept ». Le premier des sept ? Cela veut dire qu'il doit y avoir encore six autres pots sous terre, se dit-il, et il commença à creuser avec énergie. Et en effet, il trouva l'un après l'autre six pots de terre, chacun rempli de pièces d'or jusqu'à ras-bord. Musuke se fit construire en ville une grande auberge qu'il appela « Au pot ventru ». Il est vécu riche et satisfait jusqu'au jour de sa mort. Yokuchi venait souvent lui rendre visite et en général il saluait son ami par ces mots. « Alors Musuke, comment vas-tu? Je suis venu voir ce que devient mon rêve. » Et les deux compères se tapaient dans le dos en riant. Et à chaque fois, Musuke servait à son ami le meilleur des sakés dans le plus ventru de ses pots.
Daddy and Mammy standing. daddy and mommy standing by. Voici
une deuxième histoire pour continuer la sieste. Elle s'appelle « Comment les oiseaux soulevèrent le ciel et comment est née la nuit ». Jadis, il y a de cela fort longtemps, les oiseaux ne pouvaient pas voler aussi facilement qu'aujourd'hui. Dès qu'ils s'élevaient dans les airs, ils se cognaient au bleu de la voûte céleste. C'est qu'à cette époque-là, le ciel était suspendu très bas, tout près de la terre. Et dans ce petit espace, les oiseaux se sentaient comme enfermés dans une cage. Ils s'étaient donc tous rassemblés pour délibérer, et à l'issue de ce grand conseil, ils décidèrent de soulever la coupole céleste. Bien entendu, pour un petit oiseau tout seul, le ciel était bien trop lourd. Mais pouvez-vous seulement imaginer ce que cela représente comme force quand tous les oiseaux du monde s'envolent tous à la fois ? À peine s'étaient-ils mis d'accord qu'aussitôt des nuées d'oiseaux se mirent à voltiger dans les airs. Les grands et les petits, les vautours, les aigles et les colibris aussi. Et tous de concert se dirigèrent vers le ciel qui les empêchait de voler à leur guise. « Je ne bougerai pas !» s'entêta le ciel. « Je ne bougerai pas d'un pouce. Je veux regarder de près les arbres et les gens, je veux me voir dans l'eau des rivières. « Il te faudra bien pourtant nous céder la place, sinon nos ailes vont se rabougrir, » disaient les oiseaux. Au début, ce fut vainement qu'ils s'appuyèrent de leur corps minuscule contre le ciel. Mais au bout d'un certain temps, le ciel ne put plus résister à la pression et remonta un peu. Dès que les oiseaux s'en furent aperçus, ils se mirent à battre de leurs ailes en redoublant d'efforts. À la fin, le ciel fut repoussé tellement haut que même l'aigle ou le vautour disposèrent d'un espace suffisant pour leurs promenades aériennes. Épuisés, mais ravis, les oiseaux retournaient à tire-d'aile vers la terre. Mais après s'être posés dans les branchages des arbres, ils remarquèrent soudain une chauve-souris. Elle était là, tranquille, perchée sur une branche, occupée à observer avec beaucoup de curiosité les oiseaux retombant lourdement à terre, complètement à bout de souffle.
Toi, ça te gênait pas que le ciel soit si bas ?
Demanda le vautour.
J'en ai rien à faire de votre ciel, laissez-moi dormir !
Répondit la chauve-souris.
Très bien, vas-y, continue à dormir, espèce d'égoïste. Seulement, à partir d'aujourd'hui, tu ne pourras dormir que la tête en bas. Ha ! Et voilà !
Voilà donc ce que la chauve-souris garda en souvenir du grand rassemblement des oiseaux et du soulèvement du ciel. Après tout, même la tête en bas, la chauve-souris pouvait dormir tant que l'envie lui en prenait. Mais pour les hommes, il n'en était pas de même. Eux aussi, ils auraient bien aimé se reposer un peu, faire de temps en temps un petit somme, seulement la nuit ne tombait jamais. Ce qui d'ailleurs en soi n'a rien d'étrange, car il n'y avait pas de nuit. Le soleil brillait sans relâche, rendant ainsi tout sommeil pratiquement impossible. Quand j'étais encore tout petit, dit le plus vieux des hommes de la tribu, j'ai entendu nos sages vieillards parler de deux énormes jarres qui enferment les ténèbres de la nuit. Elles se trouvent dans la forêt vierge, gardées par le puissant esprit de la nuit. Nous nous y rendrons et nous libérerons l'obscurité emprisonnée dans ces jarres, proposèrent aussitôt les hommes. Nous nous en approcherons tout doucement, à pas de loup, afin que l'esprit de la nuit ne nous aperçoive pas. Et sans plus tarder, ils se mirent en route. Ils se frayaient à grand-peine un chemin à travers les forêts profondes, passaient à gué rivières et ruisseaux, grimpaient collines et montagnes vertigineuses, et un beau jour, enfin, ils parvinrent au but de leur voyage. Devant eux, à portée de flèche, s'ouvrait entre les arbres une petite clairière, au milieu de laquelle se dressaient deux jarres que nul n'avait encore jamais vues. Elles étaient immenses, ces jarres, dépassant même le faîte des arbres séculaires. Dans leurs entrailles résonnaient le ululement des chouettes, les cris stridents des singes nocturnes, bref, les voix de tous les animaux et oiseaux qui vivent la nuit. « Visez la moins grande des deux !» ordonna le chef.
Aussitôt, les abords de la clairière se hérissèrent d'une multitude de flèches. Elles sifflèrent dans l'air et allèrent se heurter à la paroi d'argile. Crac ! La jarre vola en mille morceaux et, telle la plus noire fumée, les ténèbres en sortirent précipitamment.
« En arrière !» dit la voix du chef. « Sauvons-nous vite, sinon l'obscurité va tomber sur nous et nous transformera en rapaces nocturnes. »
Tous se sauvèrent en courant aussi vite qu'ils le purent. Quelle fuite éperdue ! Derrière leur dos, ils entendaient les bonds et les cris des animaux libérés qui, avec la nuit, s'égayaient tout azimut. À peine les hommes eurent-ils regagné leur campement et se furent vite aplatis au sol, en fermant les yeux pour être ainsi à l'abri du charme, qu'une épaisse obscurité se répandit, et depuis lors, elle revint chaque jour. Très doux sommeil, puisque tu ordonnes aux yeux de se fermer et aux oreilles de ne pas entendre, pourquoi alors les feux à peine éteints, le jour revient-il aussitôt et avec lui le pénible labeur? Comment alors s'étonner que les hommes se souvinrent de la deuxième jarre enfermant l'obscurité? Il reste la plus grande qui emprisonne une si grande quantité de ténèbres que même le plus gros dormeur pourrait dormir à satiété. Les revoilà. Ces guerriers se mettant à nouveau en rang avec leurs lances et leurs flèches. Les revoilà, pénétrant dans les antiques forêts, traversant les rivières et gravissant les collines pour délivrer aussi la seconde partie de l'obscurité. Les guerriers réussirent à atteindre la fameuse clairière, à faire éclater de leurs flèches la seconde jarre. Puis, comme la première fois, ils se mirent à fuir les animaux éveillés et les charmes de la nuit. Cependant, un des hommes n'eut pas de chance. Dans sa course précipitée, il ne faisait pas attention où il mettait ses pieds et il trébucha dans la forêt contre une racine et s'abattit de tout son long. Il n'était pas encore tout à fait relevé que déjà l'obscurité l'avait entouré. L'esprit de la nuit, courroucé, à la recherche d'un retardataire, le changea immédiatement en un oiseau nocturne, un engoulevent. Les autres, par bonheur, atteignirent à temps leur demeure et vite ils se jetèrent sur le sol. Lorsque la nuit les rattrapa, ils avaient tous les yeux bien fermés. Depuis lors, toute la tribu se réjouit de la longue durée de la nuit et plus personne ne se plaignit d'avoir trop peu dormi. De nos jours, même les plus vieux ne sauraient pas dire à quelle époque les Indiens entreprirent leur grande expédition pour délivrer l'obscurité, déjà immense, et pour affronter l'esprit de la nuit. Nul ne se rappelle plus, non plus, quand les oiseaux soulevèrent le ciel. Comme nous ne comprenons pas le langage des oiseaux, il ne nous vient même pas à l'esprit que ces derniers, à peine sortis de leur nid, passent leur temps à chanter ce grand événement.
C'était l'émission Compte-gouttes enregistrée depuis la maison. Portez-vous bien et à demain.